2. Au programme pour ce grand forum et en ce mardi 9 juillet, le sujet à la une. La famille de Zineb Redouane dépose plainte pour des faits de faux en écriture publique aggravée concernant l'enquête sur la mort de l'octogénaire touché par une grenade lacrymogène au visage en marche d'une manifestation des Gilets jaunes en décembre dernier. La justice doit-elle condamner l'IGPN pour ses manquements? On en reparle dans un instant avec vous, avec Nassim Lachlach, avec Anissa Mziti aux commandes dans cette affaire. Maître Bouzrou, que nous essaierons d'avoir dans cette émission dans quelques minutes. Afrique, Emmanuel Macron va réunir jeudi à l'Elysée 400 personnalités de la diaspora engagées dans les relations franco-africaines quand Macron veut s'appuyer sur la diaspora pour sa politique africaine. Nous y reviendrons et en détail. Le point de vue de nos chroniqueurs nous intéresse tout à l'heure ainsi que le vôtre au 01 40 33 9000. Sans oublier les infos zappées, le zapping un vie tranché de Nassim et de Anissa et le quiz en fin d'émission. Voilà le programme. Tout un programme qui vous emmène et vous conduit jusque 18h.
Le Grand Forum, le coup de cœur.
Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 9 juillet. J'espère que tout va bien pour vous. On est ensemble et en direct jusque 18h avec aujourd'hui. Ça faisait un petit moment. Anissa Mziti, bonjour Anissa.
Bonjour Christophe.
Comment ça va?
Ben écoute, ça va super bien.
Bon, les vacances approchent.
Les vacances sont là.
Absolument. Nassim Lachlach est aussi de la partie. Il a repéré le bon coup là. Nassim, salut Nassim.
Salut.
Nassim Lachlach, j'ai un petit quiz pour vous, hein, pour vous départager à la fin de l'émission.
Abdeslam n'est pas là, c'est bon.
Non, Abdeslam n'est pas là.
Je prends.
Bah oui, tu prends. Oui, absolument. On va découvrir donc tout à l'heure, en fin d'émission, au programme, on parlera de l'initiative de Macron qui a décidé d'accueillir, d'Elysée, d'inviter plus de 400 personnalités de la diaspora africaine. Peut-être pour dessiner ou redessiner sa politique africaine. On en reparlera. Ça se passera jeudi à l'Elysée. C'est un peu la garden party avant l'heure, finalement. C'est le 14 juillet qui n'existe plus d'ailleurs, la garden party, je crois. Il n'y en a plus. Le 14 juillet, c'est fini, terminé. Alors, on en parlera évidemment tout à l'heure. Il y aura les infos zappées. Tiens, on a l'histoire d'un bébé qui a été oublié par ses parents dans une voiture en plein soleil dimanche dernier. Ils sont en garde à vue, les parents. Oula. Oui, bah c'est chaud quand même. Et puis le zapping. Alors dans le zapping, on va se régaler. Nous avons du nanar tapis qui a été relaxé ce matin. Même les journalistes n'en reviennent pas. Et nous y reviendrons tout à l'heure, bien sûr. Et bah voilà, plein de choses au programme de cette émission. Mais pour l'heure et pour commencer, le sujet à la une, c'est une affaire qu'on avait évoquée ici même à l'antenne. Alors pas franchement dans les médias. Hein. C'est une affaire qui a été assez étouffée. C'est l'affaire de Zineb Redouane qui donc avait été qui était décédée à Marseille. Elle avait fermé ses volets, elle s'était pris une grenade lacrymogène. La famille de Zineb Redouane donc, a déposé plainte pour des faits de faux en écriture publique aggravée concernant l'enquête sur la mort de l'octogénaire touché par une grenade lacrymogène. Donc ça s'est passé au mois de décembre, c'était en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Marseille. La question, la justice doit-elle condamner l'IGPN pour ses manquements dans cette enquête? Parce que bah évidemment l'IGPN a dit non absolument pas, on n'est pas responsable. Et pourtant son fils nous avait ici confirmé qu'il y avait des bouts de grenades qui avaient été retrouvés dans son domicile chez elle. C'est une femme qui était âgée donc qui a fermé ses volets et qui a été ensuite transportée à l'hôpital. Alors l'IGPN a dit que ça n'avait absolument rien à voir et que ce n'était pas lié. Est-ce que la justice doit faire le boulot là, Nassim, dans cette affaire qui a été complètement étouffée par la presse, hein, on peut le dire?
Bien sûr qu'elle doit faire le boulot. Qui plus est, le policier en question n'est visiblement pas identifié, pas identifiable, en tout cas difficilement. Donc là, on est comme beaucoup d'affaires. Après, peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus après, mais on est comme dans beaucoup d'affaires. Lorsqu'il y a un crime policier, il n'y a jamais de responsable.
C'est ça. Malheureusement, c'est à chaque fois comme ça. En tout cas, elle est bien décédée. En tout cas, sa famille entend bien ne pas laisser les choses ainsi. Anissa, c'est quand même toujours la même chose. C'est-à-dire que quand ça concerne, on va dire le mot, quoi. Allez, quand ça concerne des franco-maghrébins ou des africains, tout de suite, on est très, très vite étouffé, quoi.
Absolument, les preuves sont étouffées, ça s'appelle une dissimulation de preuves. Là, l'IGPN a déclaré hors service une caméra qui aurait pu potentiellement permettre d'identifier justement le CRS responsable du tir. Oui, ça pose question que constamment, en fait, dès lors qu'il s'agit de preuves pour pouvoir inculper ces personnes-là, eh bien, il n'y ait plus rien, tout disparaît, tout est hors service. Donc oui, effectivement, ça pose question, Christophe.
Vos appels au 01 40 33 9000 pour tenter aussi de nous donner votre avis avis sur le sujet. En tout cas, ça nous avait alerté ici. On avait eu donc son fils ici même. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une enquête, une enquête par la justice algérienne qui, elle, a reconnu en tout cas la responsabilité des policiers français pour le coup. Et la France donc contredit cette enquête. Quoi qu'il en soit, donc il doit y avoir lumière de fait sur cette affaire. Que nous suivons évidemment de très près. C'était vraiment au plein cœur des Gilets jaunes, hein. C'était à Marseille et on se souvient donc que cette affaire avait été quasiment étouffée par la presse, quasiment pas grand chose sur cette femme qui est morte, rappelons-le quand même, hein, en fermant simplement ses volets.
Et d'ailleurs, on oublie d'ailleurs de la comptabiliser quand on comptabilise le nombre de morts ou de,
elle est souvent oubliée,
de
ouais.
mutilés, on oublie souvent de...
Mais Macron lui-même a dit qu'il n'y avait pas eu de personnes victimes hein, des CRS lors des manifestations.
Oui, c'est Castaner même, aussi. D'ailleurs, la parole politique aussi a son importance quand même en pleine enquête, avant même que l'enquête soit terminée. Effectivement, les politiques n'hésitent pas à parler. Ça aussi, c'est un problème parce que ça influence quelque part aussi, non ?
Bah, c'est bien pour ça qu'on a la séparation des pouvoirs, en tout cas initiale. Il faut absolument pas prendre en compte la parole politique là-dedans, puisqu'un politique, comme son nom l'indique, a un objectif, a une vision politique, a parfois un dogme pour certains, en tout cas. Et donc tout ce qui ne s'y rapproche pas, ne s'y raccroche pas, va être mis de côté. Donc là, en l'occurrence, qu'importe le président de la République qu'on aurait pu avoir, ça aurait pu être Mélenchon, ça aurait été la même chose. Qu'importe le président de la République qu'on aurait pu avoir, il aurait soutenu l'institution policière et aurait affirmé que aucun policier n'était responsable. Donc la justice doit faire son travail en toute indépendance. Maintenant, on a des hommes et des femmes qui ont bien évidemment des convictions religieuses, politiques et autres, mais qui ne doivent pas rentrer en compte pour démêler le vrai du faux et rendre justice à toutes ces victimes de crimes policiers.
Mais on se rappelle quand même qu'on avait retrouvé des bouts de lacrymo chez elle. Donc les preuves étaient là, quoi. Et c'est des preuves qu'on a tenté de d'effacer. Encore une fois, je me rapporte au propos du fils qui nous avait dit cela ici même sur l'antenne, que effectivement la police qui avait fait ensuite son enquête était venue à domicile et ça avait été d'ailleurs placé sous scellé le domicile. Et il y a eu des bouts de lacrymo retrouvés chez elle.
Oui, mais il faut savoir par exemple, Christophe, que le lance-grenade n'a toujours pas été expertisé 7 mois après. C'est quand même ouf.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est, voilà, là aussi, il y a des interrogations.
Après, malheureusement, comme maintenant, on banalise énormément parce que c'est tellement courant, on a envie de dire, ça en devient bien évidemment pas normal, mais ça en devient, il y a quelqu'un qui a été tué, une personne de plus. On a des cas encore plus flagrants que celui-ci, encore plus flagrants. On peut prendre celui d'Adama Traoré qui est très clair et très limpide pour le coup, puisqu'ils ont le même avocat. Et où
Yacine Bouzrou.
Yacine Bouzrou, exactement.
J'attends ces nouvelles d'ailleurs. Peut-être qu'on l'aura d'ici tout à l'heure, mais c'est pas sûr.
On espère qu'on pourra l'avoir. En tout cas, dans ce cas-là où tout est clair et limpide, où les expertises et contre-expertises se contredisent In fine, on a des policiers qui affirment eux-mêmes que la victime a pris le poids de leur corps, etc., et que ça peut être à l'origine. On a des pompiers qui témoignent et qui témoignent que la victime était menottée alors qu'elle était en train de rendre l'âme, etc. On n'a toujours aucun responsable. On peut encore énumérer. On a la personne, on a aussi Amine Bentounsi où la justice a été partiellement rendue parce que le policier en question a été condamné, en tout cas reconnu coupable. Mais la peine qui est suivie, voilà, le plus important, c'est que la famille puisse être aussi apaisée derrière et avoir le sentiment que la justice ait pu être rendue.
Effectivement, et d'autant plus qu'il y a eu pas mal quand même de morts suite à des altercations avec la police. Je crois qu'en 2017, il y en a eu plus d'une vingtaine. Mm-hmm. C'est 17 exactement, si mon souvenir est bon. 17 familles qui sont encore dans l'attente effectivement d'une réparation, d'une reconnaissance en tout cas, qui n'arrive pas parce que évidemment quand on est face à la police, face à cette institution, d'ailleurs j'hésite pas à comparer quand on est aussi face à une institution telle que le monde hospitalier, quand il y a une erreur médicale, allez-y, accrochez-vous pour la faire reconnaître, c'est vraiment très 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 compliqué. Et là encore une fois, voilà, ça touche quand on est victime effectivement d'une injustice. Qui plus est vient de la haute autorité, c'est-à-dire de la police, donc de l'État. C'est extrêmement compliqué d'avoir justice.
Mais il peut y avoir parfois un lien, puisque dans les expertises, on a c'est des gens qui sont dans le domaine médical. dans les expertises concernant, par exemple, parler du cas d'Adama Traoré, parler de telle maladie, de répanocytose, de souffle au cœur, de ceci, de cela. Enfin bref, ça, c'est des docteurs, c'est des personnes qui sont compétentes dans le domaine médical et qui viennent justement protéger et confirmer les dires de l'institution policière. Donc des fois, il y a aussi des liens étroits entre les deux.
Alors, c'est vrai qu'Anissa, par exemple, tiens, j'ai été assez effaré de voir, alors Nassim, je pense que tu l'as vu, l'article qui titrait à propos de l'imam de Brest, là, c'est bien fait pour lui, un truc comme ça. Bref, c'est pas exactement dans les termes, en tout cas, aujourd'hui, on est en train même de banaliser les actes qui concernent évidemment Rachid Eldjé en l'occurrence. C'est un acte très grave. Ouais, on rappelle, il est devant sa mosquée, il se fait tirer dessus. Je veux dire, le mec est à l'hôpital, il s'est fait opérer deux fois. Et on banalise tout cela. Et tout cela, ça fait quoi? Ça forge davantage d'impression d'injustice. Et on nous dit, pourtant, Rachid Eldjé, depuis son lit d'hôpital, nous disait faire confiance à cette justice. Mais peut-on encore avoir confiance à la justice, Anissa?
À partir du moment où la justice et d'ailleurs l'opinion publique prend en considération le passé sulfureux, parce que j'ai lu certains articles où il parlait plus de son passé et que finalement de ce qui lui est arrivé, donc effectivement ça pose question.
Bah, grosso modo, c'est un peu dire voilà, c'est
mérité, chercher, exactement, chercher, voilà. C'est ce qui sous-tendait, c'est ce qu'on voyait effectivement au travers de ces articles. Donc oui, ça pose question et très franchement, moi qui fais du droit, je me dis que ça fait peur. Franchement, ça fait flipper de voir une justice comme ça qui est un petit peu réticente, qui on voit en fonction de la personne, etc. Bon, Bernard Tapie, on a vu que lui, pour le coup, on lui a déroulé le tapis rouge pour ce qu'il sait, enfin pour ses présumés, parce que maintenant on va dire présumés puisqu'il a été relaxé. Pour autant, il y en a qui ne bénéficient pas de ce traitement en faveur de justice.
On a aussi la comparaison très récente, puisqu'on en a parlé cette année, Christophe, sur l'antenne, de d'Alain Finkielkraut qui s'est rendu dans une manifestation des Gilets jaunes et qui a été insulté.
Et là, on en a fait tout un fromage. Hein.
On en avait parlé, en tout cas, moi, mon avis était très clair. C'est vrai que les propos étaient violents, étaient virulents et tout ce qui s'était passé. Et pourtant, je n'apprécie absolument pas le personnage. Pour autant, il faut à un moment donné avoir une certaine honnêteté aussi, une certaine distance par rapport à la chose et se dire que c'est pas parce qu'il dit A qu'il a le droit d'être traité comme ça. Donc je veux dire, il faut être intraitable avec tous et toutes, il faut être de la même manière, je veux dire, il faut considérer les choses de la même manière et pas se dire que l'autre qui s'est fait tirer dessus quand même, donc on n'est pas juste à une petite insulte comme ça au coin d'une rue, celui qui s'est fait tirer dessus, aujourd'hui on n'en parle plus, on n'en a rien à faire et personne ne va lui rendre visite, ni hommage, ni va être invité sur aucun plateau.
Oui, ni aucun plateau, et encore moins reçu
indépendamment
par le ministre de l'Intérieur, par exemple.
Indépendamment de la personne qu'il a pu être, puisque par contre, les médias ont titré, je me souviens quand il avait fait des stages de citoyenneté, quelque chose dans ce genre-là, je ne sais plus comment c'était formulé, il a changé de nom, entre guillemets, enfin, quand je dis a changé de nom, il avait un nom d'imam, je ne sais pas comment, il a changé, enfin, il a repris son nom initial, et donc il a fait des stages de citoyenneté. Ça, par contre, les médias aimaient ça. On titrait en gros que cette personne-là était en train de revenir sur ses pas.
Se déradicaliser,
exactement. Mais donc, on n'a pas considéré à l'heure actuelle, avec leur philosophie et leur pensée, on n'a pas considéré à l'heure actuelle que cette personne était, je mets des guillemets, déradicalisée, que donc c'était une personne dite, entre guillemets, encore une fois, lambda, et que donc c'était un imam lambda qui s'était fait tirer dessus, dit, encore une fois, je mets des guillemets, il y en a plein, mais parce qu'avec eux, voilà, modéré. Voilà, on n'a pas considéré ça, c'est-à-dire que quelques mois plus tôt, c'était, oh, l'imam de Brest revient sur le droit chemin, et là, aujourd'hui, c'est, oh, l'imam de Brest, voilà ce qu'il avait fait avant. Ouais, mais on a oublié que, après, j'ai pas de jugement de valeur sur le fait qu'il l'ait fait, qu'il n'ait pas fait, qu'il ait dit, qu'il n'ait pas dit. Chacun aura son opinion. Un être vivant, humain, pour ses convictions religieuses, s'est fait tirer dessus devant un lieu de culte. Et une deuxième personne qui a tenté de le protéger est aussi...
Aussi, il ne faut pas l'oublier,
voilà,
absolument.
Il ne faut pas l'oublier, ce monsieur est aussi dans des conditions très graves, puisque c'était un petit peu plus grave, si j'avais suivi l'affaire, que c'était un peu plus grave que l'imam de Brest. Et donc, par conséquent... voilà.
Comment fait-on, Anissa, pour redonner confiance à la justice aux gens qui peuvent éventuellement nous écouter, qui entendent toutes ces affaires ou qui, peut-être pour certains d'entre eux, les connaissent de près ou de loin, quand on est victime d'une agression de la part de la police, d'une victime d'une injustice par rapport au corps médical, on a l'impression qu'on peut de toute façon avoir que tort.
Bah absolument, là on verra effectivement ce qu'il en adviendra. En tout cas, on parle de circonstances aggravantes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où c'est une personne dépositaire de l'autorité publique qui dissimule des informations, des preuves, etc., c'est là qu'on parle de circonstances aggravantes. Et là, en l'espèce, il semblerait que ce soit le cas. Et que dire en fait, Christophe, à part on verra ce qu'il en adviendra, et puis en fonction de cela, effectivement, on peut comprendre aussi que des personnes soient absolument effarées et aient cette impression que cette justice qui se doit par essence d'être juste et impartiale ne remplit pas son rôle.
En tout cas, la question, on vous la pose, messieurs, dames. Bon, elle est toute simple, hein, en même temps. C'est la justice doit-elle condamner l'IGPN pour ses manquements dans cette enquête? Vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour évidemment nous donner votre point de vue. Et on peut élargir, bien sûr, le sujet parce qu'il est global, finalement. Et surtout, vous continuez de voter sur France Maghreb 2, sur Facebook. Vous êtes 94% à dire oui. Quand même 6% qui disent non. Bon, d'accord. Sur Twitter aussi, le Grand Forum FM2 pour voter. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous appeler. Tiens, j'ai peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, mais il y a un journaliste quand même qui m'a fait plaisir. Alors, j'ai perdu le nom, Nassim. Mm-hmm. C'est par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir à l'issue du match de l'Algérie. Mm-hmm. Et ce journaliste se posait la question, mais alors, on accepte, on tolère que les Franco-Portugais, par exemple, fêtent la victoire de leur équipe. Par contre, on n'accepte pas que l'Algérie, les Algériens sortent dans les rues pour fêter la victoire. Je rappelle quand même qu'il y a eu quelques scènes qu'on peut peut-être qualifier de désolantes, parce que, évidemment, vous avez ces jeunes qui montent sur les bus, qui expriment leur joie un petit peu de manière, un petit peu poussée, quoi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a de mal à fêter l'équipe de l'Algérie? Moi, j'ai vu sur Twitter, par exemple, mais faudrait peut-être nous expliquer ce qu'ils sont. Ils sont algériens, ils sont français, s'ils se sentent vraiment algériens, qu'ils retournent chez eux. Enfin, voilà toute cette fachosphère qui s'exprime à claviers ouverts depuis dimanche.
Il y a d'un côté les scènes de liesse qui sont, on va dire, qui ont été plus loin que la simple célébration. Christophe, effectivement, après quoi qu'on peut déplorer, mais comme toute célébration de nombreux matchs de foot, hein, je veux dire, ça peut arriver souvent. Mais dans tous les cas, on peut que le déplorer et se dire que il faut faire autrement, il faut faire de la prévention, il faut faire attention. Bon voilà, ça c'est quand on a dit ça, on a rien dit. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur les chaînes d'information dit continue,
ouais,
de très grande qualité, hein, Christophe.
Oui, bien sûr, évidemment.
Des confrères à toi.
Ouais.
sur ces chaînes, j'ai constaté, j'ai fait le constat dimanche. Et j'ai fait le constat hier soir encore avec le match de la Tunisie, qu'ils n'ont pas parlé de la victoire de l'Algérie. Je ne sais pas si on peut faire une corrélation entre les deux. Moi, j'en fais une, entre celui de ne pas informer le plus grand nombre que l'Algérie avait gagné. Bon, je pense que beaucoup de gens l'ont compris et l'ont entendu.
Ah, ça, ils l'ont entendu, oui.
Mais voilà, en tout cas, sur la question du Portugal, qui est effectivement l'un des pays qui se rapprocherait le plus.
C'est la plus grosse communauté en France, hein.
Européenne,
absolument.
Voilà, ouais. Communautaire, comme ils disent.
Ouais.
Et donc c'est effectivement le Portugal. Et il y avait une blague qui circulait il y a quelques années, parce que c'est pas la première fois qu'on fait la comparaison entre les deux, qui disait imaginez que le même soir le Portugal et l'Algérie gagnent un match.
Ah, c'est le bordel.
Ce serait, voilà. Après, bon,
on va retourner la France. Là.
Comparaison n'est pas raison, mais on constate forcément que dans ce pays, en France, dans notre pays, il est beaucoup moins dérangeant de célébrer un match, une victoire du Portugal qu'une victoire de l'Algérie, y compris si cela se passe mal, parce que les Portugais aussi, je ne veux pas faire de généralité, mais les supporters portugais, quand ils célèbrent, c'est aussi les motos, c'est aussi les roues, c'est aussi les voitures, c'est très similaire, il y a vraiment une grande similitude entre les deux.
Ouais.
Si on peut mettre de côté quand même la casse, qui est quand même moins importante chez les supporters portugais. Après, c'est très difficile de l'évaluer comme ça. Hein. Moi, c'est un ressenti, ça vaut ce que ça vaut.
Oui, effectivement.
La casse ou la canne, en tout cas, ce qu'il en est, c'est
il
fallait que je la mette, celle-là.
Ouais.
Mais les supporters, en général, de toute façon, il faut le dire, il y a toujours des débordements.
Bah oui, même pour l'équipe de France.
Hein. Absolument, mais que ça dérange quand ce sont des binationaux franco-algériens.
Mais Mehdi, quand même, notre cher Mehdi, qui est chroniqueur au LGF, nous faisait quand même remarquer dans nos échanges informels qu'il y avait eu quand même la Coupe du Monde féminine juste avant, et qu'on a déploré aucune dérive.
Ouais.
Bon voilà, c'est.
Non mais les femmes, c'est bien connu, elles sont plus sages.
Non mais
que
il y a
les hommes.
Des supportrices, il y a aussi des supporters, mais.
Ouais.
Enfin voilà, après la France n'a pas été en finale, la France n'a pas gagné.
Non, c'est ça aussi, ça a peut-être aussi fait un changement de paramètre. Mmh. En tout cas, voilà, vous pouvez nous appeler. Jamel est avec nous. Salut Jamel.
Salut, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Jamel.
Ouais, et puis je voudrais d'abord commencer par dire à tous ceux-là qui partent au Bled, Maroc, Tunisie, Algérie, d'être prudents sur la route, parce que le trajet est long.
Exactement, t'as bien raison. Et soyez très prudents, notamment, alors, parce que j'aime le rappeler chaque année, soyez extrêmement prudents dans les aires de repos en Espagne, principalement, parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Voilà. Donc essayez d'être prudent et de ne pas trop laisser la voiture toute seule.
Et surtout ne rien mettre sur la plage arrière, les bouteilles d'eau, tout ce qui est lourd, ne rien mettre. Parce qu'en cas de coup de frein, tout ce qui est à l'arrière passe à l'avant.
Ouais, faut penser aux enfants, effectivement. Après, voilà. C'est bon conseil, cher Jamel. Qu'est-ce qui se passe?
Ben moi, je voulais dire que à l'époque, j'étais jeune. Bon, je suis de la région lyonnaise. On était venu me voir pour demander d'aller faire la marche de l'égalité.
En 83.
Et des amis à moi ont été, et ils avaient insisté à l'époque, et j'ai refusé. Parce que quand ils parlaient de l'égalité, déjà à l'époque, nous, la première génération, on savait que les jeux étaient typés. La preuve, c'est avec le temps, comment ça se fait que tout cela, on a peut-être à la troisième ou quatrième génération, ils ont le doute d'être français. Si la France n'est pas responsable de ce qui se passe. Voilà, moi je pense que si à chaque fois que l'Algérie joue, elle gagne ou elle perd un match, ils la supportent, c'est qu'il y a une raison. C'est que quelque part, il y a dans le système français, moi je parle système politique.
Bon, je sais pas, Jamel, franchement, je sais pas s'il faut aller jusque-là. Pour ces jeunes-là, en l'occurrence, pour la grande majorité, que ce soit pour l'Algérie qui gagne, ils sont derrière eux, mais quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'était les mêmes personnes qui étaient dans la rue pour célébrer la victoire. Enfin, je pense, en tout cas.
Je suis d'accord avec toi là-dessus à 100%. Mais là où ça dérape, c'est toutes les petites bavures qu'on entend récurrentes toute l'année sur les immigrés et tout. Ça fait qu'à la fin, t'as le doute sur tout. Mais je pense que si l'État français frappait un bon coup, genre des keufs pour avoir commis une injustice, il les punissait pour de vrai. Je parle... Écoute, j'ai été extolé, enfin... J'étais en prison quand j'étais jeune. Comme tous les... Je dirais pas tous les jeunes, mais moi, non, c'est un autre combat.
Nassib, t'as pas été en prison. Nassib, t'as pas été au HEPS.
Il y a une chose dont je suis sûr, on n'est pas sur le même pied d'égalité.
Comment s'appelle notre... Jamel, il s'appelle Jamel.
Jamel, moi après pour répondre à votre question, après c'est un avis. Hein. Moi je suis un peu plus jeune, je pense, que vous par rapport à ce que vous dites. Ce qui fait qu'aujourd'hui certains jeunes peuvent ne pas se considérer ou mal se considérer comme français, c'était bien la question, hein, si j'ai bien compris, Christophe.
C'est
tout ce dont on vient de parler avant. Par exemple, quand on prend le cas de cette dame qui est morte à Marseille et pour laquelle il n'y aura jamais de justice. Ça renvoie l'image ou l'idée selon laquelle on est des citoyens de seconde zone, par exemple. Mais ça, c'est au quotidien, c'est-à-dire c'est dans le travail, c'est dans le logement, c'est dans la justice qui n'est pas équitable pour tous et toutes. Je pense que c'est ça, malheureusement. Et quand vous dites frapper un grand coup, je suis d'accord avec vous, mais frapper un grand coup en termes d'égalité, en termes d'équité entre tous et toutes, c'est-à-dire qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit maghrébin, qu'il n'y ait pas d'a priori sur nous et qu'on soit considéré comme un. Et comme une seule personne. Et à partir de ce moment-là, peut-être que dans une ou deux générations, hein, là, pour cette génération, c'est pas gagné. Hein.
Oui.
Non, mais moi, par mon expérience du passé, je peux te dire que rien n'a changé. Ça s'est même aggravé. La preuve, en 2005, quand ça a pété, c'était que la répétition des émeutes des Minguettes. Et ils ne veulent pas le comprendre. Je crois que la politique qu'ils mènent, quelque part, elle dérape et ils ne veulent pas l'admettre.
Je pense qu'ils le comprennent.
Franchement, quand j'ai parlé à Macron, quand je lui ai parlé d'un souci, il m'a écouté. Mais bon, à lui tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?
Mais je pense qu'ils le savent très bien. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, par exemple, les techniques de répression qui sont menées dans les quartiers ont été expérimentées en Algérie pendant la guerre d'Algérie, ni plus ni moins. Ils savent très bien où ils vont, ils savent très bien ce qu'ils font. Je veux dire, quand on en vient aujourd'hui à avoir des personnes de quartiers populaires, noirs ou arabes, excusez-moi du terme, mais qui se prennent des matraques dans les fesses et qui, avec 10 points de suture, on en arrive à des... On a l'impression qu'on est vraiment dans un cadre de colonisation et de guerre d'Algérie, vous voyez. peut-être que les propos que je dis vont peut-être un peu fort, mais enfin je rejoins ce que vous dites. Du coup, en termes de changement, il n'y a rien du tout, et c'est encore plus hypocrite, parce qu'à votre époque peut-être, ou à celle de mon grand-père encore plus, c'était au culot, voilà, il y a des ratonnades et fin du game, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est encore plus hypocrite, on te fait croire qu'on a l'égalité des chances, etc., etc. Alors Macron, s'il veut faire quelque chose, notre président de la République, qui mette des moyens aujourd'hui dans les primaires, dans les maternelles, dans les établissements, dans l'éducation, qui mette des moyens dans tout ce qui est social, qui mette des moyens dans tout ce qui est au niveau de la santé, et quand il y aura une sécurité sociale, il y aura une sécurité civile pour tous et toutes. Voilà.
Bah oui, c'est bien dit. T'es d'accord, hein, Jamel? Tu partages? Bon, bah c'est bon.
Au plaisir, Jamel.
Salut, Jamel. À bientôt. Hein.
Au revoir.
À bientôt. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. Vous prenez la parole parce que ici, vous l'avez réellement. Ah voilà, on fait pas du semblant. Nous, on joue pas. C'est d'authenticité ici. Sur France Maghreb 2, on continue avec vos appels au 01 40 33 9000. À suivre le zapping. Quelques infos zappées. Anis Hamziti et Nassim Lachlas sont là. On est là tranquille avec un petit quiz. Il est là. Voilà, là, elle est là.
En fin d'émission,
tout à l'heure, certainement pas. Je suis incorruptible. Ne bougez pas, on est de retour très vite sur France Maghreb 2.
France Maghreb.
Ça s'appelle le Grand Forum et on est là tous les jours, messieurs, dames, entre 16h et 18h avec aujourd'hui Anis Hamziti, avec Nassim Lachlas qui sont avec nous aujourd'hui pour commenter cette actualité et cette question que l'on vous pose aujourd'hui par rapport à l'affaire Redouane Zineb. C'est cette dame qui est morte en fermant ses volets. C'était le 1er décembre dernier à Marseille, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, et elle aurait été atteinte par une grenade lacrymogène, et il y aurait même d'ailleurs des bouts de grenades qui auraient été retrouvés à son domicile. Pourtant, l'IGPN a décidé, enfin a dit que cela n'avait absolument rien à voir, que sa mort n'était pas en rapport avec ce qui s'était passé. Sa famille, évidemment, décide d'attaquer, de porter plainte maintenant. Est-ce que la justice, donc, soit-elle condamnée, l'IGPN, pour ses manquements dans cette enquête? On se rappelle de cette prise de parole de Macron, de Castaner, dans cette affaire, qui avait évidemment totalement disculpé la police dans cette affaire. 01 40 33 9000, d'une manière un peu plus large et plus globale, on parle de la justice, bien sûr, avec Walid qui est avec nous. Salut Walid.
Salam
alaikum. Wa alaikum
salam. Ça va?
Bah oui, au moins aussi bien que toi, cher Walid. Qu'est-ce qui se passe?
Moi j'appelle, c'est par rapport à la question que vous posez.
Ouais.
Bah, je pense que bien sûr, faut que la justice soit faite, parce qu'aujourd'hui, l'État français peut tuer en toute impunité, surtout quand il s'agit des Arabes, des Noirs ou des musulmans. L'image de ce que vous racontiez tout à l'heure par rapport à l'imam de Brest, qui est entre guillemets controversé, mais bon, après il a ses opinions, il a ses choix, donc on les respecte, même si on n'est pas d'accord avec. Et après, par rapport à l'intégration au niveau français, moi je pense que l'État fait tout pour qu'on ne soit pas intégré, et ensuite quand on va supporter l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, ils sont pas contents, donc au bout d'un moment il faudrait savoir, en fait, c'est soit on est français, soit on l'est pas.
Ouais,
et après, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Israël avec les noirs juifs là.
Ça, là, oui.
Mais est-ce que vous en entendez parler dans les journaux télévisés?
Nassim, rien.
Non. Justement, parce que moi je pense que justement il faut une censure pour que ça se propage pas en France. Parce que ce qui se passe en Israël là, c'est moi je regarde des vidéos et c'est vraiment chose qui se passe là-bas par rapport à tout le racisme qui est fait envers les noirs. Et je comprends pas cette censure qui est en France. C'est quelque chose de grave qui se passe. Alors que quand il y a un petit truc qui se passe en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc ou dans un pays noir, tout de suite c'est les grands titres, on en parle tous les jours. Et bien, un petit truc qui se passe en France, quelque chose de rare du tout. Par exemple, à l'Africa Croate qui se fait insulter, là c'est pendant des heures et des heures, on n'entendait parler que de ça. Là il y a un imam qui se fait tirer dessus, on n'entend pas parler, sauf si c'est un petit message qui est écrit en bas, en précisant aussi que c'est un imam qui est un peu bizarre, qui est controversé, qui a des prises de position spéciales. Donc c'est pas normal. Et je pense qu'il y a un moment où il faudra qu'on se réveille, en fait.
Eh oui, mais en fait, tout ce que dit Walid là, c'est on se la prend en pleine face, la vérité là, hein, Nassim.
Ouais, c'est clair. Bon, on ne peut que être d'accord avec ce que vient de dire Walid. Mais sur la question de ce qui se passe en Palestine 48, la France est un grand ami de l'État d'Israël. La France a soutenu le projet de la construction de l'État et la création de l'État d'Israël. Donc, par conséquent, c'est pas dans son intérêt aussi de faire cela. Alors que il y a énormément de Français qui ont la binationalité franco-israélienne, qui résident en Israël ou qui résident en France, mais en tout cas avec la binationalité. Ce que je veux dire par là, c'est que les liens qu'il peut y avoir en termes de diaspora, on va en parler après sur un autre sujet, mais en termes de diaspora, la diaspora israélienne et je parle pas des juifs, attention, je précise israélienne, diaspora israélienne et
pas aussi présente, mais quasiment que la diaspora tunisienne, par exemple. Je veux dire, le lien qu'il y a entre les deux, on pourrait se dire, bah tiens.
Voire même moins, je crois. Hein. Enfin, 600 000, apparemment.
600 000 Israéliens ?
Oui.
En France ?
Oui.
600 000 juifs.
600 000 juifs, oui, voilà. Pardon, de confession juive.
Mais ce que oui, je veux dire, c'est que.
Se rattache à Israël.
Pour, bah, peut-être pas tous.
Oui, enfin, pour la grande majorité.
Mais en tout cas, pour rejoindre ce que disait Walid tout à l'heure, il est fort étonnant de se dire que la France, justement, sur un lien qui est aussi fort entre deux pays, ne parle pas de ce qui se passe dans le pays d'origine. Parce que sur l'Algérie, par exemple, ce blackout aussi sur ce qui se passe en Algérie, il n'y a plus de manifestation.
C'est
fini, tout est rentré dans l'ordre. Alors qu'on a aujourd'hui le mandat du président actuel, enfin du président par intérim qui termine.
Oui. On a un vide constitutionnel
dont on va peut-être parler aussi. Toutes ces questions, la France n'en parle plus.
Pourquoi elle n'en parle plus ? Ça ne va pas dans son intérêt ? Donc on n'en parle pas ?
Bah surtout qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe en Algérie n'est pas dans l'intérêt de la France.
Oui, mais normalement, c'est le rôle d'une chaîne. Bon, à la limite, que ça vienne des chaînes publiques, je peux le comprendre, et encore. Mais les chaînes privées, elles font le boulot.
On rappelle quand même que BFM est dirigé par Patrick Drahi,
oui.
Qui est franco-israélien.
Oui.
Donc voilà, on a la réponse à tout. Je veux dire, c'est pas dans son intérêt de mettre en avant ces choses-là. Et sur le racisme en Palestine 48, donc qui est occupé par Israël actuellement, sur le racisme, il y a les falachas, donc ce sont des juifs noirs,
oui.
Comme le disait Walid tout à l'heure. Mais il y a aussi contre toutes les populations immigrées qui sont là-bas, diverses et variées. Je veux dire, elles sont pas forcément juives qui viennent d'Éthiopie, mais pas que, d'Érythrée, du Soudan, etc.
Excuse-moi de vous couper, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a eu des morts.
Oui, il y a
eu des morts. C'est pas une manifestation de rien du tout, c'est qu'il y a eu des morts, donc c'est pour ça qu'ils ont manifesté. Parce que BFM, quand il y a eu des noirs qui ont été tués en Amérique, tout de suite c'était les gros titres, c'est pas normal ce que Trump fait ou ce que le gouvernement américain fait. Mais là, quand il s'agit d'Israël, tout de suite, on n'entend rien.
Je voulais juste rajouter que, en plus de ce qui se passe actuellement, donc c'est-à-dire que de crimes racistes qui se passent dans le pays, il y a eu aussi, l'impossibilité pour les noirs. En Israël de donner son sang, l'impossibilité de donner son sang. Et la deuxième chose, c'est les immigrés noirs qui arrivaient, donc juifs ou non, les femmes, ils les stérilisaient.
Pour
pas qu'elle n'ait d'enfants. Donc là, je vous parle de choses avérées que vous pouvez vérifier, Walid et tous les auditeurs. Je suis pas en train de.
Non, mais j'ai regardé parce qu'il y avait même une vidéo qui tournait où on avait deux rabbins qui s'occupaient de jeunes soldats israéliens où ils disaient que les rabbins disaient que Hitler avait de bonnes idées, qu'il existe vraiment une race supérieure, mais sauf que Hitler n'était pas du bon côté. Et c'est quelque chose qui a vraiment tourné sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout du fake et ça a même été dénoncé soi-disant par le premier ministre israélien. Mais moi je trouve ça vraiment choquant parce qu'en France, il suffit qu'un imam dise que c'est la religion, elle est comme ça. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un mécréant. Tout de suite, comme par exemple l'imam de Brest, dans certaines vidéos, il disait que écouter la musique c'était pas bien, que quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu c'était un mécréant. Et tout de suite, on disait que ce qu'il disait c'était des propos radicaux.
Il a été quand même en toute honnêteté un peu plus loin que ça quand même.
Oui, il a été plus loin, mais après, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'on a une religion ? Elle est comme ça. Il y a des choses qui sont dites. Mm-hmm. Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas, en fait ? Pour moi, c'est ça la question. C'est aujourd'hui en France, est-ce qu'on a le droit de dire ce que Dieu ou le prophète a dit dans le Coran ou dans les hadiths ? On n'est pas obligé d'y adhérer, mais on a le droit d'y croire, on a le droit de le penser, on a le droit de le dire. Après, on n'oblige personne à y adhérer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un commissariat où on entraîne des jeunes israéliens, où on leur apprend que les arabes c'est une sale race, on leur apprend à se battre, qu'il faut les massacrer, qu'il faut tuer toutes les femmes musulmanes. Mm-hmm. Ça c'est normal, mais un imam qui répète des choses qui ont été dites il y a 1400 ans, ça on comprend pas en fait.
Il a été plus loin quand même, il faut être objectif. À partir du moment où un musulman excommunie d'autres musulmans, déjà en termes de religion, ça pose question. L'islam par essence, ça n'est pas ça. Un bon musulman n'a pas à excommunier de la sorte comme il a pu le faire dans certains de ses prêches. Enfin, après ça, c'est un autre débat.
Effectivement, oui, c'est un autre débat.
Moi, je veux préciser quelque chose. Moi, cet imam, je suis désolé pour ce qui lui est arrivé, mais c'est un imam que je ne suis pas du tout. Il y a plein de trucs où je ne suis pas du tout d'accord avec lui.
Mais dans tous les cas, la justice...
Il y a plein de choses qui, pour moi, ne concordent pas du tout avec l'islam.
En fait,
je ne suis pas d'accord, mais ça reste un être humain. Chaque être humain peut faire des erreurs.
On ne devrait même pas, effectivement,
se poser la question,
parce que ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, normalement, ne doit absolument pas dicter la justice qui doit lui être faite. En fait.
Mais sinon, qu'on rétablisse la peine de mort et puis qu'on
termine, effectivement.
Chacun fait ce qu'il veut. Je t'aime pas, je te tue mon voisin. Je veux dire, là, il n'y a plus plus de limite.
Du talion. Allez. Merci Walid. Ciao, ciao.
Merci.
À bientôt. Voilà, juste une dernière chose, une dernière précision. Je sais pas si vous êtes au courant.
Qu'est-ce qu'il y a?
Mais c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps.
Ouais. T'apprends beaucoup de choses, toi.
Avant que l'État d'Israël soit créé, la Russie avait déjà créé un État israélien dans son territoire.
Il y avait un territoire qui était destiné aux Juifs, effectivement, ils avaient cette volonté-là, mais c'était, enfin, la communauté juive à travers le monde n'était pas forcément favorable. Après, pour diverses raisons stratégiques et autres, hein, je veux dire, se retrouver, je dis n'importe quoi là, c'est pas avec précision, mais se retrouver dans l'Oural ou se retrouver en plein milieu du Moyen-Orient, c'est pas la même situation.
Bah, ils étaient plus du côté de la Chine. Après, le truc qui leur posait problème, en fait, c'est que la langue hébraïque était interdite. Et justement, Staline, par rapport à ça, on l'a traité d'antisémite. Mais comme quoi, voilà, c'est bon, c'est quelque chose que
de toute manière Staline était. De toute manière, Staline était communiste.
J'ai appris récemment et je trouve ça choquant. Voilà, ils avaient un territoire en Russie, donc pourquoi partir en Palestine? C'est tout ça. Voilà, c'est pas des questions, des magouilles.
Salut Walid.
Salut.
À bientôt. Ciao, ciao. 01 40 33 9000 évidemment pour vous exprimer sur France Maghreb 2. Vous l'avez compris, vous pouvez le faire évidemment tranquillement. C'est vrai qu'il faut faire aussi attention à Internet hein, parce qu'il y a beaucoup de manipulations. On peut y voir beaucoup de choses, y compris des vidéos. Moi, j'invite vraiment à ce que fait d'ailleurs Nassim, je crois d'ailleurs régulièrement, c'est essayer de faire le lien entre une information qu'on peut recevoir, même une vidéo, ne pas la prendre comme argent comptant et d'essayer d'aller à la source et d'essayer
C'est vrai qu'on se laisse, très facilement,
Bobiner quoi.
J'ai envie de dire, c'est limite naturel. Je veux dire, par l'émotion, par des choses. J'avais vu par exemple une vidéo disant qui passait sur le Facebook, disant regardez les Israéliens ce qu'ils font en Palestine, etc. Je veux dire, là, il suffit juste de regarder les uniformes qui étaient un uniforme américain et c'était en Irak. Je veux dire, je suis le premier à défendre le droit du peuple palestinien, mais après, il ne faut pas inventer des choses. Il y en a suffisamment des réels pour en inventer des nouvelles. En l'occurrence, c'était les Américains qui faisaient la hagra aux Israéliens. Voilà.
Bon. Allez, on passe maintenant au zapping. 01-43-39-000 avec Anissa Mziti, avec Nassim Lachlach.
Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Par exemple, dans ce collège à Creil, trois jeunes filles musulmanes.
Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République.
Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein.
Elles sont l'étendard du pouvoir religieux.
Va dormir pendant au moins 24 heures.
Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
Ok. Alors, c'est parti pour le zapping avec donc ce matin l'affaire Bernard Tapie, la relax de Bernard Tapie. Même les journalistes de CNews n'en revenaient pas. Écoutez.
Voilà, l'actualité en direct avec un coup de théâtre, en tout cas une surprise, hein, le jugement de Bernard Tapie. Il est finalement relaxé pour escroquerie.
Oui, il est relaxé pour escroquerie, c'est ce qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes. Il faut savoir qu'en ce moment même, au tribunal de grande instance de Paris, eh bien, la présidente, elle est en train de lire la décision, le délibéré. Bernard Tapie, il est absent et donc on vient d'apprendre que Bernard Tapie était
effectivement... Et c'est très long, hein, je crois, la lecture
relaxé
du délibéré, c'est long.
Effectivement, pour escroquerie, on ne sait pas encore ce qu'il en est pour le détournement du fonds public. On ne connaît pas non plus pour l'instant, la peine, si jamais Bernard Tapie est condamné pour détournement de fonds publics. Mais en tout cas, effectivement, cette information de dernière minute, Bernard Tapie relaxé pour escroquerie, hein, il faut le rappeler, Bernard Tapie n'est pas aujourd'hui à se délibérer. Il est trop faible, il n'a pas pu y assister. Il est toujours hospitalisé. Il suit un traitement de chimiothérapie. Il souffre d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Et donc, c'est le délibéré qui est attendu aujourd'hui, hein, cette décision de justice. Alors que lors de son procès, Bernard Tapie, eh bien, il l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas un escroc. Il a nié avec beaucoup d'énergie avoir truqué cet arbitrage. Et il faut rappeler que les représentants du parquet national financier, ils avaient requis à son encontre une peine de 5 ans de prison, alors qu'il risquait jusqu'à 7 ans de prison pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il est donc relaxé pour l'instant.
Voilà, relaxé Bernard Tapie dans une affaire qui nous ramène à quand on était limite tout petit. Hein, vous vous rappelez, hein, l'histoire du Crédit Lyonnais, etc. Bon, bah, Bernard Tapie s'en sort de nouveau. C'est quoi? C'est circulé, il n'y a rien à voir ou...
Non, on s'en sort de nouveau. Après moi, la question que je pose, c'est où est Sarkozy, où est Lagarde dans cette histoire? Parce qu'en fait, on est en train de faire comme si, de considérer que Bernard Tapie était tout seul, qu'il avait tout manigancé et tout monté. Or, il a été soutenu et aidé avec des dommages et intérêts historiques, j'ai envie de dire, de plusieurs millions, je ne sais plus combien, mais de plusieurs millions, enfin incroyables. Après, sur la base de la vente d'Adidas par le LCL, déjà, on pouvait se poser la question si lui n'avait pas été flouté, Bernard Tapie, initialement. Alors, nous effectivement on est sur des sommes qui nous, hein, nous ça nous parle pas, nous on se demande à combien est le kilo de patates, c'est pas, on n'est pas dans, dans ça, mais je veux dire qu'ils avaient fait plusieurs millions de plus-value justement sur son dos, qu'il avait considéré pour, ça c'est juste pour resituer un petit peu les choses pour tout le monde, hein. Bernard Tapie rentre au gouvernement, Bernard Tapie vend Adidas et demande à LCL de vendre Adidas, LCL donc le Crédit Lyonnais fait une énorme plus-value sur le dos de Bernard Tapie quelque part puisque ça lui appartient, mais après faut voir ce qui était signé pas signé, hein. Moi j'étais pas dans les petits papiers. Bernard Tapie va en justice avec le LCL pour réclamer des dommages et intérêts, etc. En 2000, je me souviens plus l'année, Christophe, je sais plus si t'as l'année, mais en tout cas sous Sarkozy, 2007, voilà, entre 2007 et 2012, il y a un arbitrage qui est proposé et qui est tranché justement où le gouvernement, l'Élysée et Christine Lagarde, alors la ministre de l'époque, sur le sujet, pèse de tout son poids en faveur de Bernard Tapie, pas officiellement, officieusement.
Officiellement.
Et donc on se retrouve avec Bernard Tapie devant les tribunaux, avec l'un des juges arbitres qui visiblement connaissait, ou en tout cas il y avait une connivence. Ce juge-là aurait dû peut-être se mettre de côté et dire. Moi je ne peux pas arbitrer cela par souci de d'éthique et de morale, voilà. Ça n'a pas été le cas, donc c'était l'un des sujets qui concernait le délibéré d'aujourd'hui. Et on se retrouve avec Bernard Tapie qui remporte plus de 400 millions d'euros. Entre temps Bernard Tapie tombe malade, il est aujourd'hui atteint d'un cancer, comme j'ai envie de dire, deux Français sur 10 limite, hein, parce qu'aujourd'hui le cancer c'est quelque chose qui est complètement courant, je veux dire, c'est plus quelque chose d'exceptionnel. Et donc on peut aussi considérer que son état de santé a pu influencer, il était encore hier ou avant-hier sur les plateaux télé, disant, je cite, on réclame 5 ans de prison, on réclame 5 ans de prison pour moi, mais mon docteur ne me donne même pas 5 ans. Voilà, je pense que ça a aussi un impact sur le juge, ça reste des êtres humains, même s'il y a le droit et rien que le droit à appliquer, il y a aussi peut-être l'empathie, un côté humain qui fait que. Et donc là dans le zapping, pardon Christophe, que tu as passé, le délibéré il y avait la fraude, mais il y avait un autre chef d'inculpation qui était pas, enfin je sais pas où on en est.
Pas encore tranché.
Voilà, je sais pas où on en est là, ça doit être tranché, mais tout n'était pas tranché.
On va se renseigner. Tout n'était pas tranché.
Il n'ira pas en prison, ça c'est sûr.
Bon, a priori, il n'ira pas en prison. C'est vrai que la partie médiatique influence quelque part, influe sur les décisions de justice, Anissa.
Oh bah clairement, je pense que ça influe sur les décisions de justice, ça influe sur l'opinion publique. Faut pas oublier que derrière la justice se cachent des hommes aussi. Donc oui, je pense que ça influe, bon. Évidemment.
Alors tout à fait autre chose, là. On remonte à dimanche soir, c'était après la finale de la Coupe du Monde de football féminine. C'était à Lyon, les Américaines sont devenues championnes du monde de football féminin, vous le savez. Le direct de Fox News a été quelque peu perturbé, avec des agitateurs derrière, criant un truc qui est pas très agréable vis-à-vis de Trump.
We are here in a sports bar in Lyon, France. Here, listen to it. We're in a sports bar. We were
on entend les supporters américains à Lyon ou bien des Lyonnais en train de regarder le match avec ce journaliste qui essaye de faire son intervention et ses supporters qui crient fuck Trump, fuck Trump. Le message est passé. Évidemment. Et visiblement il est partagé par certaines joueuses américaines puisque vous savez que la capitaine Megan Rapinoe a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'irait pas dans cette foutue Maison Blanche, je cite.
Voilà, direct perturbé, hein, sur Fox News, avec ce fameux fuck Trump. Nassib, c'est marrant, non? C'est rigolo?
Ouais, c'est rigolo, mais ça montre que l'ensemble du peuple américain n'est pas forcément d'accord avec ce que fait Trump.
Et pourtant, il a de grandes chances d'être élu.
Non, mais voilà, mais ça veut dire quand même qu'il y a quand même la majorité des Américains, en tout cas, qui sont en mesure de voter, puisque on a vu un certain nombre d'Américains radier des listes électorales leur permettant pas de voter, sont d'accord quand même avec Trump. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les joueuses qui justement fuck Trump auraient pu aussi ne pas jouer. Et ne pas permettre cette victoire, puisqu'aujourd'hui c'est une victoire. C'est un avis, hein, ça n'engage que moi, bien évidemment. Et ça permet aujourd'hui à
Trump. Ce ne sont pas les Américaines qui ont crié fuck Trump.
Non, j'ai bien compris. Voilà. Mais notamment Rapinoe. Il n'y avait pas qu'elle, il y en avait d'autres qui étaient d'accord avec elle. Et ils auraient très bien pu ne pas jouer, comme ça a été le cas pour une joueuse. T'en parlais l'autre jour, Anissa, je ne sais plus de quel pays nordique, je crois, une joueuse qui a refusé de jouer pour
dénoncer le sexisme.
Alors que c'était une des meilleures joueuses de l'équipe. Et voilà, et ne pas permettre aux Américains de remporter cette victoire et de faire briller Trump au niveau international.
Oui, Anissa, tu n'avais pas l'air d'accord.
Mais au contraire, je trouve que ça ne fait pas briller Trump au niveau international. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas le monopole, justement, des États-Unis au président des États-Unis, tout simplement. Je pense que les joueuses, en ayant joué comme elles l'ont fait et en ayant gagné, ont pu justement faire passer ce message, sensibiliser les femmes autour d'elles, notamment en dénonçant le sexisme, en dénonçant aussi les violences policières aux États-Unis. Donc je trouve que ça a fait briller bien plus que les États-Unis, mais au contraire, ça a fait briller des causes nobles comme la lutte contre les violences policières. Et je pense que ça a pu mettre la lumière sur quelque chose d'important et qu'il faut dénoncer aujourd'hui.
Et vous entendez évidemment notre petite chroniqueuse, c'est la plus jeune derrière, la plus jeune chroniqueuse du LGF. Elle apprend en tout cas de Anissa et Nassim qui sont ici aujourd'hui pour les remplacer évidemment et les mettre dehors une fois qu'elle sera grande. Voilà. Puis moi par là même d'ailleurs. Si qu'elle soit grande, hein, je sais pas où je serai moi. Bon, on poursuit avec la suite de Zapping. Retrait de Total des JO de 2024. Ça, c'est un sujet que vous connaissez un petit peu peut-être. Et Emmanuel Macron en profite pour tacler Anne Hidalgo, la maire de Paris. Son premier adjoint lui répond. Écoutez.
Je veux que le budget soit tenu, je veux qu'on mobilise le maximum d'argent privé. Moi j'entends parfois des états d'âme sur l'argent privé.
Total se désengage après les pressions de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Mais c'est
vous souhaitez
pas une bonne
que
idée.
Total revienne.
Mais s'ils l'ont pas fait pour Paris, mais je le dis très sincèrement, qu'il y ait des entreprises qui polluent, c'est le cas. Mais enfin, je vais pas expliquer à tous les salariés de Total en France qu'ils ont un travail qui n'est pas digne. Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour financer, aider à financer des jeux verts, si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose. Mais moi, qu'on me trouve l'argent privé, qu'on écarte. C'est plus facile d'aller l'écarter en donnant des leçons de morale que d'aller en trouver. Donc maintenant, on doit mobiliser collectivement tous les financeurs français.
Pas l'argent qui décide de tout. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous décidez ce que vous faites, quand et comment. Et d'ailleurs, Total pourra utilement utiliser cet argent à autre chose. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer samedi un fonds de 100 millions d'euros, peut-être par hasard la somme, en faveur de la plantation d'arbres, comme quoi ils peuvent aussi faire des choses intéressantes. Mais encore une fois, il faut mettre en cohérence. On ne peut pas être dans le en même temps en permanence. On ne peut pas dire on veut des jeux verts, mais on le fait avec Total. Ce n'est pas cohérent. Ça aurait été reproché au comité d'organisation. Et encore une fois, l'idée, c'est ni d'ostraciser Total, qui est un grand acteur industriel, mais dont il faut qu'il change de modèle parce que son modèle pollue et tue les gens en faisant de la pollution. Pour cela, il y a des moyens de l'accompagner de façon positive, autrement que par le sponsoring des Jeux Olympiques. Total a considéré que lui-même se mettait dans une position embarrassante en finançant des Jeux Verts. Et donc Total a décidé de se retirer, et ça s'est fait en bonne intelligence entre le président de Total et la maire de Paris lorsqu'ils en ont discuté. Et nous chercherons d'autres partenaires, et ça avance très bien.
Alors sur ce sujet là, c'est très intéressant de voir que Macron dit ouais bon ok c'est gentil les leçons de morale machin truc, mais bon, et le premier adjoint il dit bah on peut pas avoir des jeux verts avec Total, c'est juste incohérent. Nassim, c'est quoi ta position? Ouais, d'accord.
J'ai envie de dire, non mais déjà ma position c'était à la base déjà les JO, tout pour Paris, tout pour l'hypercentralisation des choses, etc. Déjà les JO 2024, j'étais pas forcément favorable à Paris parce que derrière il y a des conséquences très graves, notamment la gentrification. On vire un certain nombre de personnes depuis longtemps maintenant. On commence à construire au détriment des populations.
On développe aussi,
là.
Non,
On développe, en tout cas, ça c'est
on
l'argument.
On va dire le transport par exemple.
Mais ça c'est l'argument qui est présenté. Mais on développe pourquoi? On développe pour que le truc olympique rejoigne machin, que la défense.
On va se baigner dans la Seine en 2024, il paraît.
En tout cas, oui, à ce qui paraît. En tout cas, avec un crocodile. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la ville où j'habite, Fontenay, est à 15 minutes de Créteil en voiture et à presque 1h30 en transport, et que je dois repasser par Paris pour aller en banlieue.
Ce sera donc peut-être plus le cas avec le super métro.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais encore une fois, moi je parle de ce que je connais, je parle de ma ville que je connais très bien. On est censé avoir le métro 1, la ligne 15 ainsi que le T1 du tramway. Aujourd'hui, aucun tracé n'est validé, aucun financement n'est validé. Donc, et justement à cause des JO, c'est-à-dire qu'on met de côté les populations qui vivent au quotidien et tous les jours, tout au long de l'année et pendant plusieurs années, pour un mois de JO et pour qui fait un peu être le centre du monde. Donc ça, c'est sur la partie JO. Sur la partie JO vert, Anne Hidalgo, pour moi, elle joue un jeu dangereux parce qu'à un moment donné, pourquoi voter pour la copie? On va voter pour les Verts en 2020. Pourquoi voter pour Anne Hidalgo? On va voter pour les Verts si on veut voter
ça
pour les Verts.
Ça va faire plaisir à Philippe et à Sabrina, ça.
Oui, si ça leur fait plaisir, c'est cool, je serais très content pour eux. Mais en tout cas, voilà, pourquoi voter pour une pâle copie? Je veux dire, quelqu'un qui inaugure des esplanades Jérusalem, qui inaugure Tel Aviv plage, qui inaugure... Je veux dire, c'est cette personne-là à qui on veut faire confiance, cette personne qui a tant d'éthique en termes d'écologique et en termes d'écologie, mais qui a si peu d'éthique en termes humains et en termes de respect des...
Donc Macron a raison alors?
Non, et donc sur le côté de Macron, c'est vrai que voilà, nous on reste chroniqueurs, c'est pas nous qui sommes décisionnaires, on n'est pas élus dans ces ni président de la République,
ouais,
ni maire de Paris. Mais là où Macron a tort aussi, est-ce que moi je comprends quand même le premier adjoint et ce qu'il dit, c'est-à-dire d'un côté on parle de JO vert, c'est incohérent. Alors pour une fois, il y a une certaine cohérence. C'est juste.
JO vert avec Total, c'est incohérent.
Oui, c'est incohérent.
C'est à l'image de la politique française actuelle, totalement incohérent, comme qui dirait. Mais Macron, par contre, lui, Total, il leur donne tout. Il leur donne tout. J'écoutais Jadot hier justement qui s'exprimait sur cette question, député européen, et qui donnait un certain nombre d'exemples, qui listait les exemples qu'on pourra même partager sur la page de...
Toi, on va te retrouver chez Écologie et les Verts bientôt, toi. Hein. Je le sens.
Non, pas du tout.
Il y a pas de mal.
Non, parce que sur d'autres sujets, ça va pas. Mais en tout cas, sur ces questions-là, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt. Aujourd'hui, la maire de Paris est en train à fermer les berges. Elle veut limite mettre le périphérique à 50 km. Voilà, mais comment on fait nous pour aller travailler?
Ouais,
c'est ça. Comment on fait pour traverser les Paris, etc. Voilà, ils pensent qu'à eux dans leur petit îlot vert, dans leur petit îlot de Parisiens bobos qui pensent qu'à manger bio. Et en fait, tout le reste de l'Île-de-France, sauf que c'est aujourd'hui la banlieue qui fait vivre Paris. C'est la banlieue qui fait vivre Paris, qui travaille pour Paris.
Et ils boivent pas de coca eux.
Qui donc?
Ces gens-là. Anissa, sur ce que dit Nassim là.
Je rejoins totalement ce qu'il dit là pour le coup.
Totalement.
Pour le coup.
Totalement, bah oui, c'est totalement. Le jeu de mots quand même.
Joli. Non mais total, bon, ouais. Est-ce qu'il faut être. Est-ce que Macron est dans le en même temps en permanence finalement?
Il essaie d'être dans la conciliation. Et je pense que c'est ce qui caractérise justement son manque de cohérence. Le fait de vouloir plaire à tout le monde et puis de faire des petites concessions par-ci, par-là, et bien du coup ça donne un parcours.
Est-ce que c'est pas la difficulté de son métier, enfin de son poste justement, d'essayer de faire plaisir à un maximum?
Ah mais quand on dit A la veille et B le lendemain, ça pose question quand même.
Stoff, en fait, Macron a été porté par ces gens-là. Il a été porté par Total, il a été porté par les banques, par la banque Rothschild, par toutes les banques, par tous les médias, etc. Il a été porté par ces gens. C'est grâce à lui qu'il a été au pouvoir. Donc aujourd'hui, la moindre des choses pour
c'est
lui,
c'est de leur rendre l'appareil.
Mais c'est de leur rendre l'appareil et qu'ils puissent Total
imposer Macron ça.
Exactement, apposer leur logo sur l'affiche des JO 2024 et qu'ils puissent dire regardez, nous on participe aux Jeux Verts. Alors oui, de l'autre côté, on fait la déforestation, on tue ceci, on tue cela et machin. Mais sur Paris, nous par contre, on est vert. Voilà.
On est très vert.
Et on pourra en parler peut-être dans la question de la diaspora, d'ailleurs, sur ce sujet-là, on pourra parler de toutes ces questions.
Oui, on en parlera dans un instant, puisque Macron, justement, a invité à l'Élysée 400 personnalités de la diaspora africaine, franco-africaine, peut-être pour redessiner ou en tout cas éclaircir sa politique africaine, ce qui sera l'occasion peut-être de parler aussi un petit peu de l'Algérie, parce que tu le disais si bien, Nassim, aujourd'hui, et ben c'est la fin officielle du mandat du président par intérim, le président par intérim Abdelkader Ben Salah en Algérie. On entre donc ou on entrerait dans un vide constitutionnel. Est-ce que c'est bon pour l'Algérie? Tout cela, on en reparle avec vous au 01 40 33 9000. Il y aura bien évidemment le journal de la CAN avec la Tunisie qui s'est qualifiée hier dans la douleur, dans la difficulté. Mais on peut dire qu'Alain Giresse a eu le nez fin quand même, en changeant le gardien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal, on est là en tout cas avec Nassim Lachlach et Anissa Mzitti et vos appels au 01 40 33 9000. On terminera notre zapping avec attention, vous automobilistes qui consommez du téléphone. Je sais que Nassim en fait partie. Attention, ça va vous coûter votre permis peut-être bientôt. Ça risque de changer et ça va se durcir. Oui, prudence.
France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. J'ai une petite faim du coup. Parler de manger, voilà. En antenne, ça parlait de Holoma Koran.
Une semaine.
J'ai fait un talché. Bon, voilà, si ma femme m'écoute. Voilà. Bon, alors, on termine notre zapping évidemment avec téléphoner au volant. Pourrait bientôt vous coûter votre permis. Explication avec la rédaction de CNews.
Ce geste pourrait vous coûter très cher, encore plus cher qu'aujourd'hui. Un appel, un texto ou un coup d'œil à une application de guidage. Si vous commettez en même temps une autre infraction au code de la route, la suspension provisoire de permis vous pendra bientôt au nez. Dans la rue, les réactions sont mitigées.
Je trouve que c'est complètement normal et très souvent, quand je conduisais 50 000 km par an, je me faisais des frayeurs absolument dingue.
Effectivement, de faire plusieurs fois, enfin plusieurs choses en même temps, c'est pas très rassurant.
Je pense que c'est pas comme ça qu'on règle le problème. En fait, les gens vont conduire sans permis, vont pas rester sur le bord de la route, et ils sont très très nombreux à le faire.
Actuellement, 70% des automobilistes avouent consulter leur téléphone alors qu'ils conduisent. Pourtant, le portable est impliqué dans un accident sur 10. Alors pour frapper les mentalités, la mesure est volontairement punitive. Mais certains professionnels du code de la route auraient souhaité plus de prévention, un peu moins de répression.
Quand les journalistes, si elles pouvaient un peu se réveiller, parce qu'on n'est pas en train de parler de mort. Nassim, à la barre, téléphone au volant.
Ouais, ça m'arrive.
Tu reconnais?
Ça m'arrive.
Mais tu reconnais que c'est dangereux?
Ah oui. Non, par contre, c'est une...
Tu t'es fait quelques frayeurs avec le téléphone au volant, franchement?
Ouais, mais j'ai déjà fait même un accrochage.
Ah ouais?
Ouais, tu sais, quelqu'un, ça ralentit, la circulation a ralenti, j'avais les yeux sur... Donc c'est... Non, franchement, honnêtement, c'est... En pensant collectif, hein, d'accord? Je trouve que c'est une très bonne mesure.
Ah oui? Ah oui, Anissa, oui. Téléphone au volant, toi aussi?
Alors moi, absolument pas.
Ah ouais?
Mon mari, qui m'a fait bien des frayeurs, c'est vraiment... Moi, ça me fait très peur. Je t'avoue que
donc
même...
Donc quand on téléphone à Anissa, quand elle répond pas, aller au volant.
Oui, quand je réponds pas tout court, c'est déjà je suis pas très proche de mon téléphone.
Oui.
Donc vraiment même pour regarder le même pour regarder le GPS et tout, très franchement, j'essaie d'éviter au maximum.
Il y a la question du GPS
quoi. Oui, c'est vrai que ça
juste ce truc là. Après, je pense que c'est bien là ce qu'ils disent les professionnels de l'automobile, plus de prévention. Je pense que la prévention, ça y est, elle est faite. On a des spots publicitaires, etc., qui sont faits. Faut à un moment donné, faut finir, faut dire c'est quoi l'objectif. On va vers ça. Après, on va se débrouiller. On va se débrouiller pour trouver des.
Mais c'est vrai. On peut le voir aussi. Par exemple, dans les transports en commun. Moi, je le vois. Les gens marchent avec leur téléphone sans regarder autour. Ouais. Et puis, c'est pas rare qu'il y a une personne qui va te rentrer dedans. Tu vois. Pourtant, elle voit bien. Elle est pas aveugle. Mais elle te rentre dedans. Et tu dis, ah, excusez-moi, parce qu'elle était en fait sur son portable. Et aujourd'hui, on est tous sur notre portable. Combien de personnes sont au volant? Là, peut-être même en ce moment, ils nous écoutent et puis ils reçoivent un SMS. Ouais, il faut que je réponde tout de suite. Hein, on n'attend même pas d'être au feu, on répond, mais en même temps, on fait gaffe à la route. Et puis voilà. C'est comme ça que se passe et arrive un accident sur deux. Donc laissez tomber votre téléphone, ça peut attendre, il n'y a rien d'urgent. Et le fait aussi des fameux trucs là, les kits main libre, c'est bon ça aussi ou pas, Nassim, franchement?
C'est interdit.
Ouais, c'est interdit.
C'est interdit au volant, oui. C'est interdit. La seule chose qui est autorisée maintenant, enfin, et encore, il y a des dispositifs pour dans la voiture pour répondre au téléphone. Donc directement, dans les baffes de la voiture, t'as le son, etc.
C'est ça.
Bon, ça, à la limite, ça peut aller. Mais de toute façon, t'es obligé de faire une manipulation pour répondre. C'est-à-dire que t'es obligé de toucher soit le volant,
mais ça
soit
aussi, ça peut te déconcentrer. Par exemple, ta femme, elle t'appelle pour te dire qu'elle te fait pas à manger. Ça t'énerve,
Ça peut te déconcentrer.
Voilà,
mais dans ces cas-là, on peut aussi supprimer la radio, par contre. Tu vois, parce que
C'est vrai qu'on peut écouter le grand forum, on peut être agacé de temps en temps. Effectivement, j'avoue. On essaie quand même de vous épargner. Bon, en tout cas, prudence, en tout cas, éviter le téléphone au volant. Franchement, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout. Et puis ça déconcentre et puis ça occasionne des accidents. Et donc, forcément, ça occasionne des ennuis dont on pourrait se passer, évidemment. Allez, tout de suite, le journal de la CAN dans un instant. On parle de l'Algérie et on parle de Macron aussi, qui invite 400 personnalités. Ça se passe à l'Elysée, c'est jeudi. Et ce sont tous des franco-africains. Il entend redessiner sa politique africaine, peut-être. Le journal de la CAN de ce mardi 9 juillet avec un match de football entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et parce que pour le Mali, la malédiction continue, se poursuit. Le Mali qui n'a jamais battu son voisin du sud à la CAN. À Suez, les aigles étaient pourtant les plus forts, mais ils ont subi l'expérience et le réalisme des éléphants, vainqueurs 1-0 grâce à Wilfried Sahar et qualifié pour les quarts de finale. La Côte d'Ivoire devra élever son niveau de jeu pour défier l'Algérie. Dit, autre qualifié pour les quarts de finale hier soir, la Tunisie. Comme le Bénin, les Tunisiens n'ont toujours pas gagné de match dans ce tournoi, mais ils s'accrochent et ils n'en perdent pas non plus. Et hier soir, au bout de la séance de tir au but, ils ont sorti le Ghana. Il y avait un partout à l'issue de la prolongation. Une fin de match marquée par ce coup de poker tenté et réussi par le sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse. Une minute avant la fin de la prolongation et le début de la séance de tir au but, Alain Giresse, le sélectionneur français, les Aigles, a changé de gardien. Il a sorti Moïse Assène, qui s'était laissé surprendre par la tête de son propre défenseur, Rami Bedoui, à la 92e minute, offrant au Ghana l'égalisation. In extremis, un partout et donc la prolongation. Alain Giresse l'a sorti pour faire entrer Farouk Ben Mustapha, un nouveau gardien, rien que pour la séance de tir au but. Paris gagné. Farouk Ben Mustapha a détourné la frappe de Khaled Ekouban. La Tunisie s'est imposée 5 tirs au but à 4. Alain Giresse.
Dans cet exercice, Farouk Ben Moustapha a des atouts. C'était un pari, on ne savait pas s'il allait être réussi.
Autre inspiration, l'entrée en jeu à la 68e minute de Wahbi Khazri, l'attaquant de Saint-Etienne. Il a bonifié le jeu de son équipe dès ses premiers ballons. Il est à l'origine de l'action qui a permis 5 minutes plus tard à Tahar Rahinci d'ouvrir le score, alors que les Aigles étaient globalement dominés depuis le début de la rencontre par les Black Stars du Ghana. Wahbi Khazri.
On peut le mettre dans le match référence, mais on est capable encore de faire beaucoup mieux. Donc j'espère qu'on va monter en puissance face à Madagascar en quart de finale.
Les Tunisiens, 3 matchs nuls au premier tour, n'ont toujours pas gagné un match dans le temps réglementaire, mais peu importe, ils sont en quart de finale. Ce sera Madagascar, l'aventure continue. Et on connaît donc le tableau complet des quarts de finale. Sénégal, Bénin et Nigeria, Afrique du Sud mercredi. Madagascar, Tunisie et Côte d'Ivoire, Algérie jeudi. Et voilà le programme que nous suivrons évidemment sur France Maghreb 2 à l'écoute de votre radio pour ce journal de la CAN tous les jours. France Maghreb 2, premier supporter des équipes maghrébines. Et espérons, on peut se prendre à rêver d'une finale entre l'Algérie et la Tunisie. Tout reste possible.
France Maghreb 2, France Maghreb.
Alors Nassim, hier me dit surtout tu ne parles pas de la Tunisie demain. Pourquoi?
Non, parce que c'est... Bon, non, c'est... Après on parle football, hein, qu'on commence pas à polémiquer. C'est pas une équipe non plus qui est en train de nous faire rêver dans la CAN. Voilà, on est content parce qu'on a une certaine solidarité maghrébine, etc. Bon voilà. Et puis le boss.
Tunisia, ici, vous entendez, hein, c'est Nassim Lachlachi,
et puis,
s'appelle.
Et puis le boss ici aussi, hein, est tunisien. Non, blague à part. Non, j'aime bien l'équipe de Tunisie. J'attendais quelque chose de plus impressionnant cette part-là, de la part de la Tunisie. Mais c'était pas, voilà, faire que des matchs nuls. Et
ça te rappelle pas le Portugal en 2016?
Bien évidemment, ça rappelle le Portugal qui devient champion in fine.
Qui gagne la France en finale.
Ouais, il manquerait plus qui remporte la coupe. Ce sera voilà, c'est pas très joli. Voilà, c'est ça que je veux dire, footballistiquement parlant. Je pense que le Maroc nous a fait beaucoup plus rêver. J'étais déçu de la défaite du Maroc. Là, la Tunisie, si elle était sortie hier, bon voilà. Mais bon, j'espère qu'elle fera un très bon match. Je les soutiendrai quand même et je les supporterai lors du prochain match.
Est-ce que une finale Algérie-Tunisie, ça te ferait rêver?
Pas du tout.
Pas du tout?
Non.
Pourquoi?
Non, ça me fera pas rêver particulièrement. Algérie-Sénégal peut-être, avec une revanche, quelque chose comme ça. Mais une Algérie-Tunisie, non, pas particulièrement.
Anissa, dis-moi.
Bah écoute, moi je suis pas une fan de foot, hein, donc.
Même le football gars, féminin.
Quoique, j'ai plus suivi le football féminin, figure-toi. Mais pour la symbolique, quoi, parce que effectivement, c'est pas très suivi, etc. Encore que cette année, ça a été quand même pas mal suivi, mais sinon, ça m'est un peu égal, hein, très franchement.
Bon. Très bien. En tout cas, le tableau des quarts de finale, vous l'avez entendu, on va suivre ça de très près. Ça sera jeudi à 18h pour Côte d'Ivoire, voilà, merci. C'est prenable, hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, c'est prenable quand on a vu les Ivoiriens jouer hier.
Après, faut se méfier. Plus on avance dans la compétition aussi, plus les équipes, la Tunisie y compris, bien sûr, hein, et plus les équipes qui ça se resserre, et puis elles vont jouer avec un autre niveau. Donc, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Et juste sur la question du football féminin, on a le sentiment, ça nous donne le sentiment qu'on est en train d'avancer sur la question, justement, des femmes dans la société en mettant en avant le football féminin. Moi, je pense que quand on avancera sur la question de la présence des femmes dans le football, plus précisément, quand éventuellement une femme sera entraîneuse d'une équipe de Ligue 1, par exemple.
Il y avait justement la coach de l'équipe de France de football était
féminin.
Féminin.
Féminin, je parle masculin.
Non, non, non. Elle a été coach d'une équipe. Je crois que c'était Clermont-Ferrand en Ligue 2. Tu t'en souviens?
Non, mais ça reste des équipes de Ligue 2, justement. Je parle de vraiment du plus haut niveau et de se dire qu'en fait une femme peut avoir les mêmes compétences sur cette question-là qu'un homme, c'est tout. Aujourd'hui, on a des femmes qui commentent depuis Estelle Denis à l'époque, qui était l'une des premières.
Ah ouais, la journaliste, ouais.
Aujourd'hui, on a des femmes qui connaissent le football.
La compagne de Raymond, comment ça s'appelle?
Domenech, qui l'a osé demander en mariage.
Qui n'a même pas répondu à son invitation à se marier.
Ah non, ouais. Bon.
Voilà, c'est terrible.
Mais en tout cas, on a des femmes qui sont aussi compétentes sur ces questions. Et donc, dans le discours, c'est bien de le dire. Et voilà, dans le football, c'est bien de le constater. Ça peut être considéré comme une hérésie pour certains, là, peut-être qui nous écoutent. Mais je pense que c'est faisable et que c'est pas être un ultra féministe que d'avancer cette hypothèse-là.
Bon, en tout cas, voilà, votre avis, si vous le souhaitez aussi, nous intéresse. Alors, justement, on parlait de l'Algérie. et de son match. Il y a l'Algérie et de tout ce qui se passe depuis le 22 février, pardon. Et aujourd'hui, on entre visiblement dans un vide constitutionnel puisque le mandat se termine pour le président par intérim Abdelkader Ben Salah aujourd'hui. Et pourtant, visiblement, on a l'impression que Ben Salah va poursuivre, va continuer. Et que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une porte qui s'ouvre pour des éventuelles élections ou une constituante, finalement, c'est un petit peu les deux projets qui s'opposent. Certains veulent effectivement les présidentielles et un président rapidement. D'autres veulent une constituante, le temps d'organiser tout cela. Nassim, on t'a pas entendu beaucoup d'ailleurs sur ces événements du côté de l'Algérie depuis le 22 février. Est-ce que c'est inquiétant justement que l'Algérie entre aujourd'hui dans un vide constitutionnel?
Ça ne peut être qu'inquiétant. Après, je m'étais exprimé quand même. Je crois que j'étais à l'antenne avec Sofiane.
Avec Sofiane, exact. Pardon.
Et sur cette question, moi, ma position, elle est que l'armée doit permettre la transition, l'accompagner, puisque de fait, on peut y mettre n'importe quel civil au pouvoir. De fait, c'est l'armée qui est au pouvoir en Algérie actuellement. L'armée accompagne une transition sous une constituante ou sous une autre forme, en tout cas celle qui pourra convenir au plus grand nombre. Et ensuite, les mêmes personnes donc qui ont fait partie justement de ce système Bouteflika devront à mon sens se retirer avec la tête plus ou moins haute, avec la satisfaction d'avoir permis une transition pour permettre que d'autres personnes soient nommées par le nouveau gouvernement et qu'on puisse faire une transition tout en douceur, c'est ce que j'avais déjà dit à plusieurs reprises, tout en permettant aussi une transition dans l'économie algérienne, dans sa diversification, ne pas se reposer exclusivement sur le pétrole. Et voilà, l'idée étant d'arrêter les manifestations, que les manifestations puissent s'arrêter le plus rapidement possible et qu'on puisse reprendre une vie tout à fait normale, parce que là, il y a aujourd'hui des répressions qui sont de plus en plus fréquentes, ce qui n'était pas le cas au début de la mobilisation, Christophe, si tu te souviens. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation qui peut être, ma plus grosse crainte restant au minimum des morts et au pire, une guerre civile. Ça, c'est ce qui pourrait être le plus grave à mon sens.
Est-ce qu'il faut aller pousser le curseur jusque-là, Nissa, dans une inquiétude qu'on pourrait avoir?
Absolument. Là, on arrive effectivement au terme des 90 jours. Toujours pas de scrutin universel qui a été prévu. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant. Et effectivement, ça devait être une transition, hein, comme son nom l'indique, et non pas un président qui, par intérim, finalement reste. Et puis, comme disait Nassim, persécute. Et il y a de nombreuses répressions. Donc oui, il faut s'en inquiéter. Et il faut observer ce qui va se passer.
Alors tiens, justement, on a des appels là-dessus. 01 40 33 9000. On est à Clamart, je crois, c'est ça? Bonsoir, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel est votre prénom, pardon?
C'est Mohand.
Mohand.
Oui.
Azoul, Mohand.
Azoul.
Ouais.
Je suis en direct, là?
T'es en direct, ouais. Mohand. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, effectivement, l'armée, elle a violé la Constitution comme depuis 57 ans. Elle ne veut pas le lâcher. Et elle ne veut pas laisser le peuple prendre les choses en main. Et je demande aux instances internationales de prendre ces gens-là en otage et d'intervenir dans ce pays au lieu de leur donner un coup de main afin de voler, de spolier notre fortune, notre bien, d'aider ce peuple qui a souffert, tant souffert. Nous avons ras-le-bol, nous voulons la liberté. Le peuple veut la liberté. L'armée, elle nous a détruits, elle nous a ruinés. On est un peuple moderne, on est un peuple civilisé. Ils nous ont réduits à néant. Nous voulons voler de nos propres ailes. La France, laissez-nous tranquilles. Aidez-nous, on vous aime, mais aidez-nous, laissez-nous tranquilles.
Ah oui, Mohand, t'appelles carrément à l'aide de la France, toi.
Non, j'appelle pas à l'aide de la France. Je l'appelle qu'elle le laisse tranquille. C'est la France qui détient ce qui aide ces gens-là. Elle les soutient et elle leur donne un coup de main, pas un coup de pied. Et je veux bien qu'elle leur donne un coup de pied. Ils sont ici, s'ils sont en France, ils ont l'asile. Khaled Nazan, normalement, il devait être passé au tribunal international. Au lieu de l'arrêter là, il doit être condamné à vie. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Arrêtez, payez des droits. Je ne fais pas appel à la France. La France, elle doit faire appel à nous normalement, mais qu'elle arrête de soutenir ces gens-là.
Voilà. Merci Mohand. Il est en colère, Mohand, non? Nassim.
Il a tout à fait raison. Il parle de prise d'otage, mais là, la prise d'otage, c'est l'armée qui a pris en otage justement la démocratie. Le peuple algérien peut disposer et doit disposer de lui-même. Et donc, effectivement, je comprends sa colère et je pense que tous les franco-algériens et tous les Algériens demandent à ce que leur volonté soit exprimée dans les urnes.
Nassim, tu vas dans le sens de Mohand, qui est quand même assez violent quand même.
Bah, il y en a beaucoup qui pensent comme Mohand. Hein. Il n'est pas isolé non plus. La position de la France aujourd'hui qui est plus qu'ambiguë, quand même, puisque on en parlait tout à l'heure, Christophe. Aucun média qui aujourd'hui n'en parle. J'ai même pas le souvenir que même dans l'Humanité, qu'on considère comme un journal progressiste, etc., qui doit soutenir, à mon avis, cette mobilisation, même là-dedans, on n'entend pas particulièrement parler, alors qu'il y a des conséquences énormes qui pourraient être sur la France. Je veux dire, il suffit qu'il y ait des accords passés qui soient rompus, un certain nombre de choses, je veux dire, des accords autour des accords stratégiques pour la France. Et ça pourrait avoir des conséquences pour la France. Donc, en sous-main, je suis sûr et certain qu'il s'intéresse énormément à ce qui se passe. Mais bizarrement, on n'en entend pas parler dans nos médias. Et voilà, donc c'est à se poser la question quand même de l'implication de la France dans tout cela et quel jeu elle joue.
Quel jeu elle joue ? La France, c'est ça ? Quel jeu elle joue ?
Quel jeu joue la France ? Ouais. Oui, tout à fait, par rapport à...
Mais la France, elle était plutôt avec les Saïd Bouteflika, avec Toufik, et ces gens-là, ils sont à Halach.
Oui, elle était hier avec ces gens-là, et aujourd'hui, elle va te sortir le discours habituel des droits de l'homme et du fait que chacun est libre de choisir son représentant, etc. Par contre, on pourra rappeler quand même que au Venezuela, la France n'a pas respecté cette position puisqu'elle a soutenu l'opposant à Maduro. En Palestine, quand le Hamas a gagné, la France a aussi condamné cette victoire du Hamas et a soutenu l'autorité palestinienne. Donc c'est quand elle veut que la France soutient tel ou tel parti. La France ne soutient qu'un parti, c'est son parti et c'est ses intérêts à elle. Et on peut pas la blâmer, attention. On peut pas blâmer un pays quand même de s'intéresser à ses propres intérêts. Hein.
C'est bon, Monji de Marseille est avec nous. Salut Monji.
Salut Christophe, salut tes chroniqueurs.
Anissa et Nassim.
En fait, je vais reprendre là où il a parlé. Yassim, il s'appelle ça, votre
Nassim.
Ami là.
Nassim.
Nassim, voilà. Là où il y a pas Nassim, là on peut la blâmer, Nassim. On peut pas la blâmer. Parce que soutenir des tyrans, c'est déclarer la guerre au peuple, en fait. La France, elle a soutenu le coup d'état de Khamenei en 92. Regardez ce qu'il a écrit Marchiani quand il a déclaré que Mitterrand, il a dit qu'on ne veut pas le deuxième tour, il faut faire tout pour arrêter le deuxième tour. Effectivement, ils ont dénoncé la victoire du Hamas en 96. Ils ont soutenu Sissi dans son coup d'état. La France soutient en fait les jeunes militaires qui lui permettent d'avoir les richesses de ces pays-là en moins d'entrée. On voit ce qu'elle fait avec le Maroc. Elle soutient totalement le pillage de l'État marocain par les sociétés françaises. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des grosses manifestations contre les sociétés françaises, je crois, Vinci, qui détenaient l'eau à Tanger. Voilà, la France, tout à l'heure vous avez parlé de Total, on interdit de faire du gaz de schiste et du creux de schiste en France, mais on va le faire en Algérie. Voilà, c'est comme ça.
Je ne dis pas le contraire. On est tout à fait d'accord. Le Hamas c'était en 2010, hein, pas 86.
Ouais.
Mais non, 2006.
Moi je parle des élections de 2006.
Oui, 2006. Ouais.
Autant pour moi.
On dit la même chose.
J'avais entendu un autre truc. Oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Quand je dis on ne peut pas la blâmer, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas. J'ai dit qu'on ne pouvait pas la blâmer dans le sens où, comme vous l'avez très bien dit, la France fait fonction de ses intérêts. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, aujourd'hui, si on était dans un sens inverse et où l'Algérie faisait en fonction de ses intérêts et soutenait, je dis n'importe quoi, une dictature face à autre chose parce que ça permettait aux Algériens, à la majorité des Algériens, de vivre tranquillement, peut-être que tout le monde n'aurait pas la même position
pense que voilà.
Soyons logiques. L'intérêt d'un pays, c'est la stabilité quand même. On voit quand même avec cette politique là de pièces de richesse, c'est la vague d'immigration et c'est la montée des extrémismes de partout en Europe. Et en plus, on vient d'un côté, on alimente si vous voulez, ces extrémismes là en créant des vagues de migration humaine parce que les gens, il faut qu'ils partent. Alors lorsqu'un Malien crève au Mali parce que la France met un dictateur au pouvoir, à un moment donné, il faut qu'il parte.
Mais voilà, on est encore sur la...
Ouais, mais moi, pardon, je vous trouve un peu dur par rapport à la situation algérienne parce qu'aujourd'hui, vous avez effectivement le général Gued Salah qui n'est pas exempt de tout reproche, on est d'accord là-dessus, mais qui opère un certain ménage. On a pu voir quand même cette justice qui est au rendez-vous avec ces hommes d'affaires qui sont pour la plupart tous en prison. À quel point d'ailleurs il va peut-être falloir agrandir Halash. Mais attends, pardon Manji, pardon. Ben non, si tu permets toi d'abord, je laisse-moi finir. Et aujourd'hui, vous avez, après, je pense que son temps viendra parce que lui aussi il a des choses à faire valoir. Mais vous avez quand même une justice qui est au rendez-vous. Ce que demandait au départ le peuple, c'était le départ de Bouteflika, c'est fait. Aujourd'hui, c'est le départ de tout le système. Bah, c'est peut-être en train de se passer. Est-ce qu'on peut, alors moi je vous pose la question suivante, est-ce que vous êtes pourquoi pour des élections tout de suite maintenant désigner un président qui fera le boulot lui de réorganiser la constitution et le pays, ou est-ce que vous êtes pour une constituante qui comporte certains risques? On a vu ce que ça a donné en Tunisie, on a vu ce que ça a donné ailleurs. Donc est-ce que c'est l'exemple tunisien égyptien que vous voulez, ou est-ce que c'est effectivement l'exemple algérien?
Son propre exemple, c'est que si on fait des élections maintenant, on a il y a une super interview de le président Marzouki qui explique comment au Soudan et en Algérie, le peuple il a appris de l'histoire de ce qui s'est passé.
Excuse-moi, mais Marzouki, permets-moi de te dire, Manji, Marzouki, franchement, j'émets extrêmement beaucoup de réserves par rapport à Marzouki. Je le connais de très près. Je peux te dire que le personnage, voilà.
Je connais de très près à Aix-en-Provence avant qu'il soit président. Et très peu de monde que je tenais à l'époque de Benyali. Alors, Marzouki, je connais personnellement quand il était à Aix-en-Provence. C'est ça, c'est pas le problème. C'est qu'on peut avoir les réserves qu'on veut, mais il a quand même une vision et il a quand même été le premier président.
Sa vision n'a pas fonctionné.
Manji, tu peux pas nous parler de la vision de Marzouki qui a complètement échoué. Manji, faut arrêter 5 minutes. La vision de Marzouki a complètement échoué en Tunisie. Tu peux pas nous venir nous la vanter aujourd'hui ici, Manji.
Mais non, mais Marzouki, il a délaissé le pouvoir, elle a perdu le pouvoir, elle a laissé. On aimerait bien une tragédie qui se passe. Voilà, c'est tout.
Bon,
mais Marzouki, lorsqu'il parle, il a dit on a été trop gentil avec l'état profond. On a laissé des gens qui ont regardé dans quel état est la Tunisie maintenant.
Bah,
un
oui.
président, c'est qu'il y a un attentat, il est encore dans le coma. C'est quoi ce président?
Bon, merci Manji.
Juste sur la question que tu poses, Christophe, sur la constituante ou les élections,
ouais.
Le seul souci qu'on a, à mon sens, je sais pas ce qu'en pensent les uns les autres, n'hésitez pas à réagir aussi sur la page, etc. Non, mais sur les réseaux sociaux,
ouais.
c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on a des partis politiques ou en tout cas des groupes qui sont suffisamment constitués et solides pour pouvoir présenter des candidats? C'est la simple question que je pose.
C'est vrai qu'elle est bien,
c'est en ça que la constituante peut être une bonne alternative, parce qu'elle permettrait à la société algérienne de se réorganiser, puisqu'aujourd'hui tout était concentré au FLN.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est juste ça, c'est très difficile de répondre de manière catégorique. Maintenant, je pense que tous, autant que nous sommes, que ce soit Mounji, que ce soit Sofiane, soit moi, soit toi, soit toutes les personnes qui aiment l'Algérie, on espère que la meilleure sortie de crise. Par contre, à faire très attention avec ces espèces de groupuscules séparatistes qui essayent de justement diviser l'Algérie.
Qui veulent mettre le chaos, n'ayons pas peur de
mettre le voilà. Donc je pense notamment au MAC, et je n'ai aucune réserve sur cela, je veux dire, pour dire ce que j'ai à dire. Je pense notamment au MAC, mais ce ne sont pas les seuls. Voilà, qu'on ait des drapeaux culturels et qui représentent une région, etc. Bien évidemment, je suis d'origine, moi aussi, berbère de la petite Kabylie. J'ai pas de problème avec ça, avec des problèmes identitaires. En revanche, qu'on veuille faire des scissions dans le pays et qu'on veuille découper l'Algérie, ça non.
Ça non, d'accord. Alors, tout ça pour dire, il nous reste une minute pour que je vous dise que Emmanuel Macron va réunir des personnalités de la diaspora africaine engagée. Ça se passera jeudi et c'est à l'occasion, d'ailleurs, de la visite de son homologue ghanéen. Et il tiendra donc un grand débat avec 400 personnes des personnalités issues de la diaspora africaine de France, africains en résidence en France, binationaux et français d'origine africaine engagés dans les relations entre entre France et Afrique. C'est ce qu'a indiqué en tout cas l'Elysée. C'est un échange interactif aux côtés du président donc du Ghana également, qui sera là et présent, qui vise à présenter un tableau plus précis, plus complet des échanges et des enjeux avec le continent africain. Expliquer pourquoi le président de la République consacre autant de temps à la relation avec l'Afrique. Où veut-il arriver? C'est là peut-être des questions qu'on peut éventuellement se poser. Peut-être avez-vous la réponse, mais alors très rapide.
Non, simplement, moi, je n'ai pas été invité.
Ça, c'est une première chose, oui.
Non, mais après, il faut se dire aussi qu'il faut arrêter de dire la France. On constate qu'en face de la France, il y a aussi des gens qui s'y rendent à cette réunion et qui vont accepter de travailler avec le gouvernement français, alors que le seul intérêt du gouvernement français, c'est les intérêts du gouvernement français.
Tu salues l'initiative quand même?
Ça peut être intéressant à regarder. Il faut regarder, en tout cas.
Quand on parle, on échange, c'est déjà un bon début.
En tout cas, on est un certain nombre de binationaux à se poser la question sur les ponts et les liens qu'on peut faire entre les deux rives, entre les deux pays. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, si c'est des chiens de paille qu'on met là encore une fois de plus, et qu'on se retrouve avec des gens comme Chalgoumi, là on est sur un côté théologique.
Je sais pas s'il va être invité, lui, tiens. Alissa, bonne idée ou pas?
Oh, je suis perplexe, moi, après avoir dessiné les frontières africaines. Là, il redessine un petit peu sa politique africaine française. Je suis très perplexe.
Bon, en tout cas, elle va pas être perplexe dans un instant quand elle va démonter Nassim au quiz. À suivre sur France Maghreb 2.
France Maghreb 2.
C'est l'heure du quiz et c'est l'heure aussi des menaces en antenne. Faudrait qu'on fasse un petit zapping, un de ces quatre, de tout ce qui se dit en antenne. Ça menace. Je dis pas qui, mais ça menace. Bon, en tout cas, c'est le jeu. C'est parti avec à ma gauche, Anissa Mziti. Très sérieuse, studieuse. Voilà. À ma droite, Nassim Lachlach. Il est là aussi.
Toujours là.
Il regarde ce qui se passe, il scrute. Toujours prêt à bondir, bien sûr. Avec mes questions, attention, c'est parti. Voici ma première question. Tout est en rapport avec, évidemment, la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 9 juillet.
Ah, d'accord.
On est en 1816. Je cherche l'indépendance d'un pays d'Amérique du Sud. Lequel?
D'Amérique du Sud.
Ouais.
1816. Ouais, déjà, c'est surprenant, l'année.
Ouais.
Non, c'est pas surprenant. Pourquoi? L'indépendance
d'un
pays.
Est-ce qu'on considère qu'Haïti, c'est l'Amérique du Sud?
Non, c'est pas Haïti.
Ok.
Voilà.
C'est à côté.
Un grand pays.
Écoute, Brésil, Venezuela.
Non.
Chili.
Non.
Ah bah non. Argentine.
Argentine.
Il n'y a pas le choix.
Argentine.
On pouvait que.
Alissa, tout va bien?
Ouais, je suis là. Hein.
D'accord. Okay,
non, mais au niveau géographie, c'est vrai que.
C'est pas trop ça.
Bon, d'accord. Argentine est une bonne réponse. Effectivement, l'indépendance de l'Argentine en 1816 était donc un 9 juillet. Deuxième question.
Où? Ouais.
On est en 1877. Début d'un premier tournoi de tennis. Mais lequel?
Wimbledon.
Oui, magnifique. Bonne réponse, Nassim Lachlach.
Il a fait avant d'arriver.
2-0.
J'ai envoyé des textos à Christophe.
1960, en France, en 1960, un décret autorise une petite nouveauté sur les autoroutes françaises. Laquelle?
110? Non?
Non, pas du tout. C'est, ça n'a pas rapport avec la vitesse.
Non, c'est.
Qu'est-ce qui se passe sur les autoroutes françaises? En 1960, un décret.
On peut s'arrêter sur le côté?
Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais quand tu quittes une autoroute?
Clignotant?
Non. Quand tu quittes une autoroute avant, tu fais quoi?
Péage.
Péage! Bonne réponse.
Il n'y avait pas de péage avant?
Non.
Ah non, mais ça, c'est une histoire, Christophe.
Un décret donc, qui autorise, petite nouveauté, donc l'installation des péages sur les autoroutes françaises en 1960.
Je pense qu'il y a corruption.
Et depuis.
Là. 3-0. Non, il n'y a pas de corruption du tout.
1, 2, 3.
Vive l'Algérie. Quatrième question. On est en 1991. Quel pays est réintégré dans le mouvement olympique après quand même 32 ans de suspension? Pas du tout.
L'Allemagne,
oui. Pas du tout. Après 32 ans de suspension.
La Russie?
Non, de mouvement olympique.
La Corée?
Non.
Au moins le continent.
Je précise que le pays en question fait encore partie du dernier carré final de la CAN.
L'Algérie?
Non. Non, non.
La Côte d'Ivoire?
Non.
La Tunisie?
Non.
Il reste qui?
Je suis pas une footeuse, moi, je sais pas, il reste qui?
C'est un grand pays qui a déjà organisé la Coupe du Monde.
Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud! Bah oui, l'Afrique du Sud, quand même, l'apartheid, tout ça, les gars.
Bah oui.
Bah oui. Bon, il est là, le Nassim Lachlach, hein, avec ses petites chips, tout ça, il est là. Bon, allez, 4-0 quand même, hein, je dis ça, je dis rien. Cinquième question, peut-être pour Anissa. Je cherche un acteur mort le 9 juillet 2004. Comme indice, les tontons flingueurs ou encore le gendarme de Saint-Tropez. De qui s'agit-il ?
Ne sors pas ton portable pour vérifier.
Non, Nassim.
Ouais, non.
Je le vois arriver.
Un acteur, tonton flingueur, le gendarme de Saint-Tropez.
Non, moi je connais pas. Cinéphile.
Jean.
Du Jardin.
Non.
Il est encore vivant.
Il est vivant, le Jean, pauvre. Voyons, du Jardin. Il était d'ailleurs sur les Champs-Élysées dimanche avec un film qui était projeté en plein air.
Non, franchement, j'avoue.
Nassim, ça te dit rien ?
Moi je parle plus. 4-0, je parle plus.
Jean Lefebvre.
Alors là, okay.
Un petit peu fort là.
Bon, alors dernière question. Ça, celle-ci, ça va être fastoche. Je cherche un roi né le 9 juillet 1929. Il fut roi de son pays entre 1961 et 1999. Il est mort le 23 juillet 1999. De qui s'agit-il ? De quel roi ?
En Europe ?
Non.
Le roi, le. Non, 99.
C'est ouais. Le Maroc.
Thaïlande.
Le Maroc ouais.
Le roi Hassan.
Le roi Hassan II, que tu n'es pas.
Que je ne suis pas.
Voilà, le roi Hassan II, effectivement, qui est né donc le 9 juillet, donc 1929. Et il fut donc roi du Maroc de 1961 à 1999. Et il est mort donc le 23 juillet 1999. C'était le roi Hassan II. Bon, alors, une victoire sans appel, un score brutal. De 5 buts à 1 pour
non,
Nassim Lachlach, quoi.
Cana 1.
Quoi, non, 4.
Cana 1.
Cana, non, pas du tout, 5. Et effectivement, le petit point. Donc, tu mérites bien cette musique, Nassim, pour toi.
Merci.
De la Ligue des champions du LGF, dont Abdeslam Itach est toujours le champion en titre, hein, évidemment. Et il sera là, d'ailleurs, demain, confronté à Farid Tamsamani et à Faiza Ben Mohamed, entre 16h et 18h. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
Merci à toi,
Christophe. Merci à Anissa, merci beaucoup. Et Nassim. Et on également remercie la petite qui était là derrière et qui a fait aussi valoir ce qu'elle avait à dire. Hein, n'est-ce pas ? Allez, bonne soirée à tous. Restez bien branchés. France Maghreb 2. Et à demain.